Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir tout le monde. Il est agréable de vous rencontrer de nouveau dans l'émission quotidienne en français de la Voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Nous souhaitons que vous restiez toujours en bonne santé et toujours le temps d'écouter nos programmes. Pour ce soir, l'émission sera commencée par le journal, suivi du commentaire, l'histoire d'aujourd'hui et la mise au point.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec le titre. L'Indonésie doit être neutre dans le conflit arabe-iranien. Dans le conflit entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, l'Indonésie contrôle le prix des carburants. 12 navires de pêche illégale ont été enfoncés ce janvier. Le ministre de l'Agriculture garantit le riz emporté et seulement la réserve. ULKI rappelle protection des consommateurs dans l'ère de la CEA. Et enfin, le Timor-Leste est le pays destinataire des exportations des produits de la province de Nusa Tenggara orientale. Voici le journal complet. Un observateur du Moyen-Orient et de l'Islam de l'Université d'Indonésie, Yon Mahmoudi, a déclaré que l'Indonésie devrait être neutre de voir le conflit de l'Arabie Saoudite et l'Iran. Comme cité Antara, Yon Mahmoudi a déclaré mercredi à Jakarta que l'Indonésie, comme le pays ayant le plus grand musulman, devenait certainement une attention de ces deux pays pour rassembler le soutien. Par conséquent, l'Indonésie devrait être en mesure de prévenir pour que ce conflit n'entre pas à l'Indonésie à travers la question d'affrontement entre sunnites et chiites, réduite à la question de la wahhabite et chiite. Yon Mahmoudi ne soupçonne que le déploiement massif en Indonésie lié à la haine à la fois contre le wahhabite et contre le chiite est l'état préalable à déclencher le conflit du Moyen-Orient en Indonésie. Le gouvernement indonésien doit être vigilant à ces questions qui se propagent facilement parmi les musulmans. Le gouvernement indonésien continue de surveiller l'impact du conflit de l'Arabie Saoudite et de l'Iran sur l'industrie du pétrole et du gaz dans le pays, parce que jusqu'à présent, on ne peut pas encore être prévu et ce que l'Arabie Saoudite va maintenir ou même de réduire sa production de pétrole. Le changement des prix mondiaux du pétrole affectera l'économie mondiale. Le directeur général de pétrole et de gaz du ministère de l'Énergie et des Ressources minérales, Ignwirat Madja Puja, a admis que la stabilité géopolitique au Moyen-Orient aurait un impact sur les prix mondiaux du pétrole. L'impact du changement des prix mondiaux du pétrole affectera également l'état de l'industrie du pétrole et du gaz indonésien. Afin de surmonter ce problème, Wirat Madja Puja a ajouté que le gouvernement a fait un scénario pour éviter l'impact de l'instabilité des prix mondiaux du pétrole, par exemple par la mise en place de la sécurité énergétique. Les fonds seront discutés par les membres du Conseil pour être mis dans le budget d'État 2016. Le gouvernement, à travers le ministère des Affaires maritimes et de la pêche, est prêt à enfoncer 12 bateaux de pêche illégale à la mi-janvier 2016. L'enfoncement de navires est fait afin de créer un effet dissuasif pour les voleurs de poissons opérant dans les eaux indonésiennes. Le directeur général du contrôle des ressources marines et de la pêche, Asep Burhanuddin, a expliqué que dans la mise en œuvre de l'enfoncement du navire, il coopère avec la Marine nationale et la police. Il a ajouté que l'équipe combinée totale a coulé 121 navires, tels que 8 navires par la Marine nationale d'octobre à décembre 2014. Alors qu'en 2015, la marine a noyé 113 navires. Aseb Burhanuddin a ajouté que les 121 navires qui ont été effondrés jusqu'à présent provenaient de 39 navires vietnamiens, 36 navires des Philippines, 21 navires de la Thaïlande, 12 navires de la Malaisie, 2 navires de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, un bateau de la République populaire de Chine et 10 navires indonésiens. Toutefois, il a admis qu'il n'a pas été en mesure d'évaluer les pertes d'État à cause de la pêche illégale. Le ministre de l'Agriculture, Andy Amaran Sulaiman, a déclaré que le riz emporté était seulement la réserve qui sera distribuée si le stock de riz dans le pays est insuffisant. Le ministre Andy Amaran Sulaiman, après avoir observé l'opération du marché du ministère de l'Agriculture et de l'agence logistique Bulog au marché de riz Cipinang, Jakarta, a nié la nouvelle sur le riz emporté qui était distribué ou pour viser à augmenter l'approvisionnement de riz dans l'opération du marché en région. Comme cité Antara, le ministre de l'Agriculture garantit que le riz emporté n'est pas utilisé parce qu'actuellement, le stock national de riz est encore en sécurité dans la gamme d'un 2 millions de tonnes. De plus, il y aura un supplément de 3,5 millions de tonnes de la récolte au février prochain. Le secrétaire de la Fondation des consommateurs d'Indonésie, ULKI, de Sulawesi du Sud, Yudi Harjo, a déclaré mercredi que le gouvernement devait renforcer la protection des consommateurs en aire de la CEA, dans lequel le flux de marchandises en provenance des pays de l'ASEAN vers l'Indonésie presque sans limite. Le gouvernement doit renforcer activement les efforts visant à protéger les consommateurs afin d'assurer la sécurité des produits qui sont consommés par les gens. L'un des efforts qui peuvent être faits, selon Yudi Harjo, est d'assurer que les produits qui entrent en Indonésie contiennent les informations complètes et correctes sur les origines et les ingrédients dans le produit. L'autre chose qui doit être faite est de mener la supervision et l'inspection durable. Le Timor-Leste est le pays destinataire des exportations des produits de la province de Nusa Tenggara Oriental, tels que le sel, le soufre, le chaux, des pièces de véhicules et d'autres produits. Comme cité par Antara, le chef de la distribution de l'Agence centrale de statistiques de Nusa Tenggara Oriental, Desmond Sinorat, a dit à Kupang jeudi que Timor-Leste était la principale destination des exportations de Nusa Tenggara Est. En raison de la courte distance, il est facilement accessible via la voie terrestre seulement 10 heures. Et il y a des similitudes et des relations commerciales. Selon les données du Bureau central des statistiques, en novembre, les produits qui sont exportés par Nusa Tenggara Oriental ont atteint 1 805 584 $ américains. Dans l'avenir, il y a la possibilité d'exporter d'autres produits indonésiens avec la publication du règlement du ministre du Commerce concernant l'exportation des produits de l'industrie forestière. Chers auditeurs, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Chers auditeurs, nous vous présentons maintenant intitulé « Le séparatisme, l'application de la loi et l'amnistie ». Un groupe séparatiste d'Inminimi opérant dans la province d'Aceh a finalement reconnu l'Indonésie. Cette attitude apparaît à cause de la promesse d'obtenir une amnistie du gouvernement. Il provoque alors les avantages et les inconvénients d'un grand nombre de partis. Le projet de l'amnistie lui-même vient de la bonne volonté du président de la République d'Indonésie, Joko Widodo, qui va terminer le conflit de moyens pacifiques avec des groupes séparatistes. La politique amnistie, qui est considérée comme l'approche douce, est considérée comme meilleure façon. Le président a également ordonné à ses collaborateurs pour préparer cette directive. Le président veut que l'amnistie ne conduise pas à des effets défavorables, comme ce qui est craint par des partis qui sont contre à cette politique. En fait, le gouvernement indonésien est en train d'encourager l'accélération du développement et le développement équitable. Le séparatisme, qui est un phénomène politique dans le milieu de la diversité en Indonésie, est un énorme obstacle à la mise en œuvre du développement. Bien sûr, le gouvernement indonésien ne voulait pas prendre beaucoup d'énergie pour éradiquer les troubles de séparatisme. Par conséquent, beaucoup de gens soutiennent pleinement le gouvernement, mais pas moins qui ont également critiqué. Un membre de la commission anti-parlement, Effendi Simbolon, par exemple, a rappelé que les cas de séparatisme devraient être résolus par les voies juridiques. Il était inquiet que l'amnistie favorise effectivement le séparatisme. Cette raison est normale. Peut-être il y a des groupes de séparatistes qui tentent leur chance en prenant les armes pour atteindre ces objectifs et de faire de l'amnistie comme solution quand il est pressé. Et il y a un groupe de criminels qui a avoué comme séparatiste quand il sera arrêté, en espérant de recevoir l'amnistie. L'Indonésie est l'État unitaire de la République d'Indonésie. Il est clair et ne peut pas être négociable. Ainsi, beaucoup de gens croient que le gouvernement sous la direction du président Jokowi gardera le NKRI. Si l'arrière-fond du séparatisme est une question de justice et de le bien-être, le progrès et le développement équitable de temps en temps devraient être maintenus ensemble. L'Indonésie ne veut pas qu'il y ait d'attention de la part des étrangers qui sont souvent apparus dans chaque cas de séparatisme. Ce pays appelle toutes les nations du monde de respecter la souveraineté de chaque pays. Les gens du monde doivent être sûrs que les Indonésiens peuvent bien gérer leur propre pays. Chers auditeurs, c'était le commentaire.
Vous êtes toujours avec La Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Bonsoir à tous, voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons avec l'événement de la date 7 janvier 1965. L'Indonésie a décidé de se retirer de l'ONU. L'Indonésie est devenue officiellement le 60e membre de l'Organisation des Nations Unies le 27 septembre 1950, conformément à la résolution 86 du Conseil de sécurité des Nations Unies 2 jours avant et la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'adhésion de la République d'Indonésie auprès de l'Organisation des Nations Unies. D'un an après la reconnaissance de la souveraineté de l'Indonésie par les Pays-Bas à la conférence de la table ronde entre les Pays-Bas et l'Indonésie à La Haye, le 23 août au 2 novembre 1949. Au cours de la confrontation Indonésie-Malaisie en 1965 et en réponse à l'élection de la Malaisie en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'Indonésie a décidé de se retirer de l'ONU. Cependant, dans un télégramme daté du 19 septembre 1966, l'Indonésie a notifié au secrétaire général sa décision de reprendre une pleine coopération avec l'ONU et de reprendre sa participation aux activités à partir de la 21e session de l'Assemblée générale. L'Indonésie a rejoint à l'ONU le 28 septembre 1966 et l'Indonésie a été déclarée en tant que le 60e membre, les mêmes membres depuis la fusion de l'Indonésie le 28 septembre 1950. Le prochain événement était en 1979 lorsque Pol Pot et ses forces Khmer Rouge ont été renversés par les forces du Vietnam. À la fin de 1978, les dirigeants vietnamiens ont décidé de supprimer le régime des Khmer Rouges dominé du Cambodge démocratique, percevant comme étant pro-chinois et trop hostile à l'égard du Vietnam. Le 25 décembre 1978, 150 000 soldats vietnamiens ont envahi le Cambodge démocratique et ont envahi l'armée révolutionnaire du Cambodge en seulement 2 semaines. Le 7 janvier 1979, une République populaire pro-vietnamienne du Cambodge, PARC, a été créée à Phnom Penh, marquant le début d'une occupation vietnamienne de 10 ans. Pendant cette période, le Cambodge démocratique de Khmer Rouge ont continué d'être reconnu par les Nations Unies comme le gouvernement légitime du Cambodge. Plusieurs groupes de résistance armée ont été formés pour combattre l'occupation vietnamienne. Derrière la scène, le premier ministre Hun Sen du régime PRK a approché les factions du gouvernement de coalition du Cambodge démocratique à mener des pourparlers de paix. Sous la pression diplomatique et économique lourde de la communauté internationale, le gouvernement vietnamien a mis en œuvre une série de réformes économiques et de politique étrangère qui ont conduit à la retraite du Cambodge en septembre 1989. Et le dernier événement était en 1984, lorsque le Brunei Darussalam a rejoint l'ASEAN. L'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est est une organisation politique et économique de 10 pays d'Asie du Sud-Est. Elle a été formée le 8 août 1967 par l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour et la Thaïlande. Ensuite, l'adhésion est élargie pour inclure le Brunei, le Cambodge, le Laos, le Myanmar ou Birmanie et le Vietnam. Ces objectifs comprennent l'accélération de la croissance économique, le progrès social et de l'évolution socio-culturelle parmi ses membres, la protection de la paix et de la stabilité régionale et les possibilités pour les pays membres pour résoudre les différends de manière pacifique. Le 7 janvier 1984, le Brunei Darussalam a rejoint le 7e membre de l'ASEAN. Actuellement, les membres de l'ASEAN ont augmenté de 10 pays, à savoir l'Indonésie, la Thaïlande, la Malaisie, Singapour, les Philippines, Brunei, le Vietnam, le Laos, le Myanmar et le Cambodge. Serge Thor, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Vous êtes toujours avec La Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Bonsoir, voici donc la mise au point ayant pour le titre « Des produits indonésiens peuvent concurrencer à la communauté économique de l'ASEAN 2016 ». Le janvier 2016 est le début de l'application de la communauté économique de l'ASEAN, CEA. Le marché libre de l'ASEAN est une forme d'intégration des pays de l'ASEAN pour renforcer la communauté de la région. Il permet un pays pour vendre des biens et des services facilement aux pays qui acceptent la CEA, de sorte que la concurrence sera plus serrée. La CEA ouvre la circulation des marchandises ou des services et aussi le marché du travail des professionnels tels que le médecin, l'avocat et le comptable. Lié à cette question, le président Joko Widodo estime que la CEA est l'opportunité pour l'Indonésie à introduire des produits au pays de l'ASEAN. La CEA est un défi qui doit être confronté. Les entreprises d'État, BUMN, peuvent encourager la communauté de renforcer la compétitivité des industries nationales. Le président optimise que les produits indonésiens peuvent concurrencer dans la CEA. La chose la plus importante est d'améliorer et de simplifier afin que les produits nationaux puissent concurrencer. Pour faire face à la CEA, le développement des infrastructures devient le programme principal de l'Indonésie en fournissant le budget de 313 trillions rupiah. Le directeur général de la coopération de l'ASEAN du ministère des Affaires étrangères, Rosalit Rousman Adnan, a déclaré « Il y avait 12 secteurs prioritaires de biens et de services dans la CEA. Les secteurs de services qui ont leur importance sont la logistique et les transports aériens. » Selon le président de l'Association nationale des compagnies aériennes, INACA, M. Arif Wibowo, en général, la compagnie aérienne indonésienne est prête à faire face à la CEA en termes de commerce, les ressources humaines, l'opérationnel, les financières et les services, notamment en même temps avec le règlement de l'ouverture de vol de l'Asie du Sud-Est ou ASEAN Open Sky. Dans le secteur du tourisme, le président de l'Association de l'industrie touristique indonésienne, GIPI, Didin Junaidi, a dit que pour faire face à la CEA, le gouvernement devait faire une campagne massive en fournissant les produits désirés par les touristes. Le gouvernement doit aussi préparer les ressources humaines de tourisme qui sont qualifiées, ce qui devrait garantir la disponibilité des installations et des infrastructures. D'autre part, lié aux questions des main-d'œuvre, le directeur du conseil du syndicat des employés du secteur des services de l'ASEAN, ACETUC, Kunwardana Abioto, a affirmé « La mondialisation et la CEA sont inévitables. » Par conséquent, les travailleurs indonésiens doivent se préparer à participer à la CEA. Ils doivent avoir les compétences qui peuvent être absorbées par l'emploi. Serviteur, c'est la mise au point pour ce soir.
Et après, nous vous présentons le rappel des titres de l'actualité.
Un observateur du Moyen-Orient et de l'Islam de l'Université d'Indonésie, Yon Mahmoudi, a déclaré que l'Indonésie devrait être neutre de voir le conflit de l'Arabie Saoudite et l'Iran comme cité Antara. Yon Mahmoudi a déclaré mercredi à Jakarta que l'Indonésie, comme le pays ayant le plus grand musulman, devenait certainement une attention de ces deux pays pour rassembler le soutien. Par conséquent, l'Indonésie devrait être en mesure de prévenir pour que ce conflit n'entre pas à l'Indonésie à travers la question d'affrontement entre sunnites et chiites, réduite à la question de la wahhabite et chiite. Yon Mahmoudi ne soupçonne que le déploiement massif en Indonésie lié à la haine à la fois contre le wahhabite et contre le chiite est l'état préalable à déclencher le conflit du Moyen-Orient en Indonésie. Le gouvernement indonésien doit être vigilant à ces questions qui se propagent facilement parmi les musulmans. Le gouvernement indonésien continue de surveiller l'impact du conflit de l'Arabie Saoudite et de l'Iran sur l'industrie du pétrole et du gaz dans le pays, parce que jusqu'à présent, on ne peut pas encore être prévu et ce que l'Arabie Saoudite va maintenir ou même de réduire sa production de pétrole. Le changement des prix mondiaux du pétrole affectera l'économie mondiale. Le directeur général de pétrole et de gaz du ministère de l'Énergie et des Ressources Minérales, Igun Wiratmaja Pooja, a admis que la stabilité géopolitique au Moyen-Orient aurait un impact sur les prix mondiaux du pétrole. L'impact du changement des prix mondiaux du pétrole affectera également l'état de l'industrie du pétrole et du gaz indonésien. Afin de surmonter ce problème, Wiratmaja Pooja a ajouté que le gouvernement a fait un scénario pour éviter l'impact de l'instabilité des prix mondiaux du pétrole, par exemple par la mise en place de la sécurité énergétique. Les fonds seront discutés par les membres du Conseil pour être mis dans le budget d'État 2016. Le gouvernement, à travers le ministère des Affaires maritimes et de la pêche, est prêt à enfoncer 12 bateaux de pêche illégale à la mi-janvier 2016. L'enfoncement de navires est fait afin de créer un effet dissuasif pour les voleurs de poissons opérant dans les eaux indonésiennes. Le directeur général du contrôle des ressources marines et de la pêche, Asep Burhanuddin, a expliqué que dans la mise en œuvre de l'enfoncement du navire, il coopère avec la Marine nationale et la police. Il a ajouté que l'équipe combinée totale a coulé 121 navires, tels que 8 navires par la marine nationale d'octobre à décembre 2014, alors qu'en 2015, la marine a noyé 113 navires. Asep Burhanuddin a ajouté que les 121 navires qui ont été effondrés jusqu'à présent provenaient de 39 navires vietnamiens, 36 navires des Philippines, 21 navires de la Thaïlande, 12 navires de la Malaisie, 2 navires de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, un bateau de la République populaire de Chine et 10 navires indonésiens. Toutefois, il a admis qu'il n'a pas été en mesure d'évaluer les pertes d'État à cause de la pêche illégale. Le ministre de l'Agriculture, Andy Amaran Sulaiman, a déclaré que le riz emporté était seulement la réserve qui sera distribuée si le stock de riz dans le pays est insuffisant. Le ministre Andy Amaran Sulaiman, après avoir observé l'opération du marché du ministère de l'Agriculture et de l'agence logistique Bulog au marché de riz Cipinang, Jakarta, a nié la nouvelle sur le riz emporté qui était distribué ou pour viser à augmenter l'approvisionnement de riz dans l'opération du marché en région. Comme cité Antara, le ministre de l'Agriculture garantit que le riz emporté n'est pas utilisé parce qu'actuellement, le stock national de riz est encore en sécurité dans la gamme d'un 2 millions de tonnes. De plus, il y aura un supplément de 3,5 millions de tonnes de la récolte au février prochain. Le secrétaire de la Fondation des consommateurs d'Indonésie, ULKI, de Sulawesi du Sud, Yudi Harjo, a déclaré mercredi que le gouvernement devait renforcer la protection des consommateurs en aire de la CEA, dans lequel le flux de marchandises en provenance des pays de l'ASEAN vers l'Indonésie presque sans limite. Le gouvernement doit renforcer activement les efforts visant à protéger les consommateurs afin d'assurer la sécurité des produits qui sont consommés par les gens. L'un des efforts qui peuvent être faits, selon Yudi Harjo, est d'assurer que les produits qui entrent en Indonésie contiennent les informations complètes et correctes sur les origines et les ingrédients dans le produit. L'autre chose qui doit être faite est de mener la supervision et l'inspection durable. Le Timor-Leste est le pays destinataire des exportations des produits de la province de Nusa Tenggara Orientale, tels que le sel, le soufre, le chaux, des pièces de véhicules et d'autres produits. Comme cité par Antara, le chef de la distribution de l'Agence centrale de statistiques de Nusa Tenggara Orientale, Desmond Sinorat, a dit à Kupang jeudi que Timor-Leste était la principale destination des exportations de Nusa Tenggara Est. En raison de la courte distance, il est facilement accessible via la voie terrestre seulement 10 heures. Et il y a des similitudes et des relations commerciales. Selon les données du Bureau central des statistiques, en novembre, les produits qui sont exportés par Nusa Tenggara Orientale ont atteint 1 805 584 $ américains. Dans l'avenir, il y a la possibilité d'exporter d'autres produits indonésiens avec la publication du règlement du ministre du Commerce concernant l'exportation des produits de l'industrie forestière. Chers auditeurs, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Pour la rubrique suivante, écoutez la rubrique culturelle et apprendre l'indonésien.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir à tous, retrouvons-nous dans le magazine culturel. Cette fois, nous vous invitons à voyager dans la province de Nusa Tenggara Est. Manggarai est la résidence dans la province de Nusa Tenggara Est. Cette région est habitée par des gens de Manggarai qui sont connus pour l'hospitalité. La promotion touristique à Manggarai, y compris la reconnaissance de Komodo comme l'une des sept merveilles du monde par l'UNESCO, encourage l'esprit des gens à maintenir des vêtements rituels qui montrent leur hospitalité, comme par exemple le rituel Kepok pour accueillir les invités. Kepok en langue mangaraï signifie salutation. Il est une tradition pour accueillir les invités. Avant la cérémonie de Kepok est commencée, l'hôte drapera un tissu typique de Mangaraï pour les invités féminins et le chapeau sonké pour les hommes. Ensuite, le dirigeant autochtone porte une carafe ou tawou contenant du vin et le coq blanc. Chaque invité doit recevoir une carafe et boire du vin. Puis, l'hôte remet le poulet à être détenu et tour chaque client est également en rotation. Après le rituel est terminé, les hôtes sont invités à entrer, accompagnés par la danse de Sanda. La cérémonie de Kepok reflète la sincérité des gens de Mangaraï de recevoir les visiteurs qui visitent Mangaraï. La cruche de vin est un symbole que l'hôte a donné les meilleures boissons aux invités. Le poulet est un symbole que les clients qui viennent doivent être salués, accueillis et honorés. Le rituel Kepok continue à être conservé par les gens de Mangaraï. Quand l'ancien président Sulo Bambang Yudhoyono a assisté à la voile Komodo en septembre 2013, les dirigeants autochtones ont fait le rituel de Kepok à l'aéroport de Komodo. Et en 2015, la visite du président Joko Widodo et Madame Iriani Widodo à Mangaraï Ouest a également été accueillie avec un rituel Kepok à l'aéroport Komodo Labuan Bajo. Les invités étrangers qui effectuent une visite à l'île de Flores, en particulier les districts de Mangaraï, seront accueillis avec le rituel Kepok. Il est l'expression de la sincérité des gens d'accueillir les autres. Sergita, c'était le magazine culturel pour ce soir avec pour titre Le rituel Kepok. Demain, nous nous retrouverons avec un sujet plus intéressant encore. À demain!
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Chers auditeurs de Service mondial de RRI, la voix de l'Indonésie, nous vous présentons maintenant l'Indonésie en couleur. Dans une série d'événements de 28 septembre 2009 à 2 octobre 2009 à Abu Dhabi, les Émirats Arabes Unis, précisément le 2 octobre 2009, l'Organisation des Nations Unies en charge des questions culturelles, l'UNESCO, a approuvé et inauguré le batik comme des objets du patrimoine culturel produit par l'Indonésie. La reconnaissance de batik par l'UNESCO devient un défi pour l'Indonésie à préserver son existence, afin de ne pas disparaître en raison de l'entrée de la culture moderne. Il existe de nombreuses façons faites par les différents partis qui visent à préserver et à maintenir le batik. Entre autres, la formation de batik, c'est le thème de notre rubrique cette fois. Le 2 octobre 2009, l'Agence de l'ONU pour la culture, l'UNESCO, a fixé le batik comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Selon Wikipédia, cette date est non seulement célébrée par la nation de l'Indonésie en tant que journée nationale de batik, mais l'UNESCO détermine aussi cette date comme la journée mondiale de batik. Pour protéger, maintenir et préserver le batik comme la culture nationale, le conseil exécutif des étudiants de l'Université Muhammadiyah de Jogja met en œuvre des activités en fournissant informations de base, surtout pour les débutants qui viennent de connaître le batik. Lors de l'événement, les participants ont reçu des outils et des matériaux comme un morceau de coton blanc ayant la taille d'un mouchoir, limace de motif batik, la cuisinière, la casserole, ainsi que la cire. Il est facile de suivre la formation de batik. Premièrement, les participants ont été invités à déplacer le motif batik qui a été fourni sur un coton blanc à l'aide d'un crayon. Le motif fourni est relativement simple, car il est pour les débutants qui apprennent à faire le batik. Après que les participants déplacent le motif de batik sur le coton, la prochaine étape est de faire le batik en utilisant le chanting, ou petit entonnoir en cuivre, qui a été trempé dans la soirée ou la cire chaude. Menchanting est l'étape la plus difficile. Les participants doivent veiller à la position de chanting et d'assurer également que la cire dans le chanting était dans des conditions chaudes. Si la cire n'est pas chaude, il ne peut pas tracer sur le coton. Chers auditeurs, il est temps pour la jeune génération de jouer le rôle important dans la protection, l'entretien et la préservation des cultures de la nation. L'un d'eux est le batik indonésien. C'était l'Indonésie en couleur pour cette fois, ayant pour thème la formation de faire le batik pour préserver le patrimoine culturel d'Indonésie. Nous vous reverrons à une autre occasion avec d'autres sujets intéressants.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id.
Comme la fin de notre émission, nous vous présentons la rubrique de distraction.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis de la Voix d'Indonésie dans le monde entier. Merci d'écouter la Voix d'Indonésie. Voici le programme musical. Vous pouvez écouter nos émissions sur les fréquences de 9525 kHz ou en streaming de www.ve.co.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Pour l'édition de ce soir, nous vous présentons les deux groupes musicaux, à savoir le groupe musical Trio Tridi et Duo Yuan. Nous vous présentons d'abord le groupe musical Trio Tridi. Comparé avec le format solo et les bandes, pas beaucoup de chanteurs qui sont courageux d'exprimer leur musicalité en trio. Cependant, Rizky, Giuseppe et Tara, trois amis qu'autrefois étaient connus comme modèles, ont accordé de montrer leur talent en trio. Comme leur premier single, les trois beaux jeunes hommes ont immédiatement débuté avec une chanson composée par Tengku Shafiq intitulée « Tak Mungkin ou Impossible ». Bonne écoute.
Tak mampu berkata di saat pertamaku melihat wajahmu langsung berdebar. Tak mampu hilangkan pikiranku tentangmu di saat ku coba untuk lupakan.
Namun semakin lama semakin ku ingin dirimu.
Tak mungkin ku rasakan bila tak jatuh cinta.
Setiap saat kau ada di benakku.
Tak mungkin ku menghilang bila tak ku berjumpa.
Setiap saat ku ingin bersama.
Sejak ku jumpa denganmu di saat kau jalan dengan yang lain.
Tak bisa mencari itu pengganti dirimu. Oh,
saat ku memilih namun semakin lama semakin ku ingin dirimu.
Tak mungkin ku rasakan bila tak jatuh cinta.
Setiap saat kau ada di benakku.
Tak mungkin ku menghilang bila tak ku berjumpa.
Setiap saat ku ingin bersamamu. Dan bila kau pun bisa
rasakan yang ku rasakan. Oh, 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 oh.
Then if you really wanna be mine,
you will say
yes I do. Setiap saat kau ada di benakku.
Tak mungkin ku menghilang
bila tak ku berjumpa.
Setiap saat ku ingin bersama.
Tak mungkin ku rasakan bila tak jatuh cinta.
Setiap saat kau ada di benakku.
Cerita, c'était la chanson de Trio Tridi intitulée Impossible. Comme d'autres chansons de Tengku Shafiq, la chanson Tak Mungkin est pleine de vitalité et facile à écouter. Tridi est capable de chanter joliment. Cette chanson raconte la compétition de trois jeunes hommes pour conquérir le cœur d'une jeune fille. Comme les nouveaux arrivants, la présence de Tridi n'est pas exempte de critiques, parce qu'ils étaient soupçonnés d'utiliser seulement leur beau apparence comme modèle et non pas vraiment la capacité à chanter. Mais ils le refusent. Ils ont dit depuis l'enfance qu'ils ont déjà aimé chanter. Rizky, Jisef et Tara ont pris part à divers événements de chant. Bon, Saritok, écoutons la chanson suivante intitulée Le Bibaïk ou C'est mieux. Bonne écoute.
Hati, namun tiba-tiba kau hadir, temani sebagai pengganti. Dan ku mulai buka mata hati lagi, dan di saat ku mulai jatuh cinta lagi, ku rasakan ku sakit hati. Kaulah yang patut ku harapkan, namun tak begitu. Kaulah yang harusnya mengerti, namun kau tak mampu. Jujur ku tak bisa terus dengan kamu. Lebih baik ku udahan denganmu. Kamu,
tapi ku tak mengerti mengapa ku tak menerima dengan caramu mencinta.
Dan ku coba untuk mengertimu lagi,
dan di saat itu ku semakin makin ingin lagi
untuk pergi darimu selama.
Chers amis de l'antenne, je vous rappelle que vous êtes toujours avec nous dans la rubrique Le Magazine Musical. Pour Tridi, la confiance accordée par la société de lancer leur premier single doit être payée avec les meilleures performances. Ils se rendent compte également la forte concurrence dans l'industrie de la musique qu'aujourd'hui est toujours orientée vers les boy bands et les chanteurs en solo. Bon, serviteur, voici Trio Tridi avec sa chanson intitulée « Mata Matamu » ou « Ton espion » avant que nous continuions au prochain groupe musical You One. Bonne écoute.
Termanikan matamu membuat aku bisu.
Kedipan matamu
sana.
Ku tatap kamu, menatapku.
Oh, aku terpaku. Bingung.
Malu, kamu sekarang tahu. Ada aku yang selalu memperhatikanmu.
Kelingan matamu membuatku termalu.
Lirikan matamu membuat aku bisu.
Kedipan matamu membuat aku gagu. Dan aku mata-matamu.
Aku mencingkan mataku memperhatikan. Jika aku mencantik, ku takkan mengganggu. Aku hanya
mata-matamu.
Dari matanya kau ke hati. Rasa ini tak miliki. When you look at me penuh arti.
You know lady.
Waktu berhenti.
Chers auditeurs, maintenant je vous présente le groupe musical Yuan. Le groupe musical Yuan se compose de deux garçons de Bandung, Java West, à savoir Yurin et Iwan. La musique pour Yurin et Iwan est devenue la partie intégrante de la vie. Ils sont devenus amis depuis le lycée. Tous les deux ont admis qu'ils ont déjà aimé la musique à cette époque. Séparément, Yurin et Iwan ont participé à divers festivals de chant. Enfin, ils ont convenu de fusionner et de former un duo appelé Yuan et introduire leur premier single intitulé Satu Kepastian ou Incertitude. Cette chanson raconte le sens de la perte subie par un amant en raison d'un amour abandonné. Bon, chers auditeurs, avant de terminer notre programme, voici la chanson du groupe musical Yuan intitulée Incertitude. Bonne écoute et au revoir.
Lama aku lalui, terasa hampa jiwa ini. Sejak dirimu pergi, tinggalkan aku sendiri. Yang mewarnai kehidupanku, semua hilang sudah bersama bayangmu. Kenalilah kau padaku, bawalah serta cintamu, jangan biarkan diriku tanpa satu kepastian.
Haruskah kau mengerti aku hanya untuk dirimu. Tiada lagi cerita indah yang mewarnai kehidupanku. Semua hilang sudah bersama bayangmu. Kembalilah kau padaku, bawalah serta cintamu. Jangan biarkan diriku tanpa satu kepastian. Harusnya kau mengerti betapa cintaku hanya untuk dirimu. Kembalilah padaku kasih, kembalilah padaku lagi, kembalilah untuk selamanya.
Toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id.
C'est la fin de notre émission. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id. Ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta, ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voi Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.